Monsieur Beaulieu, d'abord, ben merci d'avoir accepté l'invitation pour cette entrevue, d'abord et avant tout.
C'est moi qui vous remercie.
Évidemment, on revient sur cette semaine nationale du don d'organes et de tissus qui va avoir lieu du 22 au 28 avril. Pourquoi faire une semaine nationale et elle sert à quoi, cette semaine-là de sensibilisation?
Alors, la semaine nationale du don d'organes et de tissus, c'est l'occasion de parler de façon, je dirais, un peu plus concentrée, un peu plus soutenue de l'importance du don d'organes et des bienfaits pour les personnes qui vont être transplantées. J'ajouterais aussi souvent les bienfaits pour les familles de donneurs qui ont vécu un moment terrible, qui est la perte d'un proche, et l'occasion d'expliquer ou de rappeler à la population quelles sont les différences qui peuvent venir avec le don d'organes.
Il faut rappeler qu'il y a encore beaucoup trop de Québécois qui sont en attente d'une transplantation d'organes. À l'échelle québécoise et à l'échelle plus régionale pour les Laurentides, ça représente combien de personnes?
Écoutez, au 31 décembre 2017, il y avait 786 personnes pour tout le Québec. Du côté des Laurentides, on parle de 44 personnes qui étaient en attente à ce moment-là, c'est-à-dire 25 personnes qui attendaient un rein. Et les 19 autres attendaient soit pour un cœur, un poumon ou un foie. Ça reste beaucoup de gens parce que dans de nombreux cas, les gens qui attendent un cœur, un rein ou un poumon, ça peut vouloir dire un décès s'il n'y a pas de transplantation. Et tous ceux qui attendent pour la dialyse, pour un rein, ça veut dire qu'ils doivent aller en dialyse. Et ça, si vous connaissez des gens qui vont en dialyse, c'est vraiment pas très drôle. C'est trois fois par semaine, je dois me rendre à l'hôpital ou je dois me soumettre à ça toutes les nuits à la maison. C'est très, très exigeant. Alors, la transplantation reste le meilleur traitement pour quelqu'un qui a une insuffisance rénale terminale chronique.
Il faut dire que ces gens-là, M. Beaulieu, ce sont des personnes gravement malades. Donc, chaque consentement, et je pense que c'est le message aussi que Transplant Québec veut passer, chaque consentement compte.
Absolument. Puis c'est très important de savoir ceci, c'est que c'est à peu près 1% des gens qui décèdent à l'hôpital qui peuvent devenir des donneurs d'organes. Et ça, c'est pas une donnée qui est spécifique au Québec. Et quand on prend tous les décès qu'il y a à l'hôpital dans une année, on parle d'à peu près 30 quelques mille personnes qui décèdent à l'hôpital. Donc, 1% de ça, c'est 300 à 350 personnes au total pour tout le Québec. Donc, d'une part, si on n'a pas fait connaître nos volontés et qu'on peut être un donneur et que le don ne se réalise pas, mais ça peut être jusqu'à 8 vies qui ne pourront être sauvées suite au décès. Donc, on peut avoir l'impression des fois de se dire bah, il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait connaître leur volonté. En ce qui me concerne, je ferai ça plus tard, c'est pas important. Non, ça peut faire toute la différence. Évidemment, comme je dis toujours, on souhaite une longue vie en santé aux gens, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Tout le monde a un peu suivi la catastrophe qui est arrivée à Humboldt, en Saskatchewan. Eh bien, dans cette catastrophe-là, il y a eu, on le sait maintenant, un donneur, un jeune qui a pu donner ses organes, et ça a permis de sauver de nombreuses vies. Personne ne pouvait prédire ça.
Absolument. Et c'est malheureusement beaucoup de cas d'accidentés de la route. Quels sont les donneurs, les meilleurs donneurs potentiels, d'une certaine façon?
Écoutez, c'est bien sûr que ce qui est on appelle un traumatisme crânien, qui vient souvent avec un accident de la route, amène souvent plus d'organes par donneur. Et il n'est pas rare que ce soit souvent des plus jeunes. Évidemment, ce qu'on souhaite d'abord, c'est que les gens soient en vie, en forme, avant d'être des donneurs d'organes, c'est bien certain. L'autre cause la plus fréquente, ce sont ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébrales ou les hémorragies cérébrales. Et dans ce cas-là, dans les deux cas, il faut que le décès soit constaté à l'hôpital.
Donc, directement. Et les gens, des fois, peuvent peut-être avoir la crainte en disant « Est-ce qu'on va tout faire pour me sauver la vie ou on va prioriser une transplantation. Vous répondez quoi à ces gens qui pourraient être inquiets de ça?
Et c'est une question que j'entends souvent. Et on va d'abord, évidemment, faire tout pour sauver la vie d'une personne. Les équipes médicales, c'est ça leur objectif. Quand on arrive mal en point à l'urgence dans un hôpital, on va d'abord tout déployer pour sauver notre vie. Mais il y en a des décès. Et parmi ces décès-là, bien, dans certains cas, on va constater que le don d'organes pourrait être une possibilité. Et on va en parler avec la famille, avec les proches. Maintenant, si j'ai fait connaître mes volontés par écrit, idéalement, et que j'en ai parlé avec mes proches, ben pour mes proches, ça sera beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce que je voulais et d'honorer mes volontés que quand on le sait pas, parce que le don d'organes suppose un événement de crise. C'est subi. Par exemple, là, je vous parle au téléphone, qui sait, après-midi, je m'effondre sur le trottoir, on m'amène à l'hôpital et on constate que je fais une grosse hémorragie cérébrale. On va tout faire pour me sauver la vie. Ma famille va venir, va être un peu en catastrophe, puis elle va dire, on va dire à ma famille, ben Louis, il va pas bien, puis on va voir comment ça évolue. On fait tout ce qu'on peut, et puis le lendemain matin, bien finalement, on dit, ben là, il s'engage en mort cérébrale. Bon, on annonce la mauvaise nouvelle. Après, on revient avec une discussion sur le don, pour que ma famille dise oui au don ou permette, contribue, parce qu'on a besoin de son aide pour évaluer certains aspects, il faudra qu'elle accepte que je sois décédé. Et ça, c'est très, très difficile. Alors, si j'ai fait connaître mes volontés, que j'ai parlé de ce que je voulais, mais il y a des gens qui vont s'en rappeler dans ma famille, puis si j'ai mis ça dans un des registres, soit celui de l'assurance maladie ou des notaires, bien, on pourra montrer à ma famille, regardez, c'était ça la volonté de Louis. Donc, merci de nous aider à la réaliser.
Mais pourquoi, M. Beaulieu, même si ces personnes ont donné leur consentement, leurs proches peuvent refuser le don d'organes au décès?
Écoutez, la loi dit qu'on doit donner et faire la volonté d'une personne. Ça, c'est très, très clair. Maintenant, il ne faut jamais oublier que la famille va se retrouver dans une situation subite et de crise. Donc, elle pourrait arriver qu'elle ne soit pas capable de dire « oui, je vais vous aider » à honorer les volontés ou non, je pense que c'est pas la bonne chose à faire parce que elle est en situation de crise. Puis accepter le don d'organes à ce moment-là, c'est aussi accepter que la personne est décédée et c'est des choses qui risquent de se mélanger dans la situation de crise. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur la grande importance de parler de ce qu'on veut et de le mettre par écrit. Et entre guillemets, on a deux très bons moyens au Québec, qui est le registre de l'assurance maladie. Il y a là plus de 3 millions de Québécois d'inscrits. Et dans le registre des notaires, il y a 1 600 000 personnes. Alors, on peut dire oui, on utilise les deux registres. Puis si pour nous, c'est important de dire non, puis je crois qu'on doit respecter ça, bien, on peut aussi le consigner dans le registre des notaires. Et après, dire à au moins à certaines personnes de notre entourage, c'est ça que je veux. Je vous demande de respecter si on peut faire le don d'organes, mais merci de procéder et d'honorer mes volontés.
Donc, le simple fait de signer sa carte d'assurance maladie ne suffit plus à l'heure où on se parle?
Il est bien de signer sa carte d'assurance maladie, mais si je m'inscris dans l'un ou l'autre des registres, cette information-là va rester là tout le temps. Et elle sera accessible au moment opportun si je me retrouvais dans une situation où je peux être un donneur. Le personnel autorisé chez nous pourra vérifier si je suis inscrit dans les registres et redonner cette information au besoin à la famille. La carte d'assurance maladie, elle n'est pas toujours sur nous. Tout le monde ne la traîne pas, on devrait, mais tout le monde ne fait pas ça. Alors, elle est peut-être plus difficilement accessible si c'est signé en arrière de la carte que si c'est dans le registre. Parce que, par exemple, moi, je me suis inscrit dans les registres, mais c'est pas quelque chose que j'ai pas besoin de refaire pour tout le reste de ma vie. C'est là, c'est disponible, c'est consigné. Si je change d'idée, je peux toujours le faire puis retirer mon consentement. Donc, c'est un meilleur moyen. La carte, ça reste bon, mais les registres, c'est mieux.
Et on peut faire ça en ligne, par exemple, pour le registre de la RAMQ?
Oui, on peut aussi téléphoner à la RAMQ parce que ce qu'on va recevoir, c'est notre formulaire. Par exemple, moi, quand j'ai signé, c'est mon formulaire à moi parce que c'est lié à mon dossier d'assurance maladie. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas prendre mon formulaire puis vous le donner puis dire copie-le puis remplis-le. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on peut le commander aussi en ligne. C'est un petit peu plus laborieux. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent bientôt pour rendre ça plus simple, si j'ai bien compris. Mais on peut le faire soit au téléphone. Et si on cherche l'information, on peut aller sur le site signedon.gouv.qc.ca ou sur le site de transplantquebec.ca.
Donc, évidemment, il y a beaucoup d'initiatives, si j'ai pu comprendre, que Transplant Québec fait là, pour diminuer les délais pour la transplantation. Quelles sont ces initiatives-là qui sont organisées chaque année?
Alors, écoutez, tout au long de l'année, on va faire des activités de formation auprès du personnel dans les hôpitaux parce que c'est eux qui peuvent identifier les donneurs. Je vais d'ailleurs profiter du moment pour remercier le personnel du CIS des Laurentides. Il y a eu plusieurs dons d'organes qui se sont réalisés dans votre région, notamment à l'hôpital de Saint-Jérôme et à l'hôpital de Saint-Eustache. Alors, merci aux équipes qui s'engagent beaucoup de ce côté-là. Donc, on va faire de la formation. On va aussi aider à mieux organiser les activités dans les hôpitaux pour que tous les donneurs soient identifiés et référés. On se rappelle un tantôt que je disais que c'est pas beaucoup de gens, c'est à peu près 1% des personnes qui décèdent à l'hôpital. Et troisièmement, on va avoir plusieurs initiatives auprès du grand public, dont ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais on a aussi de nombreuses villes qui s'associent à nous pour... on espère cette année une centaine de villes, de municipalités qui vont s'investir avec nous pour soutenir les initiatives pendant la semaine nationale. Et voyez-vous, dans les dernières années, dans les Laurentides, on a eu plusieurs municipalités, c'est pas une liste exhaustive, mais Blainville, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Saint-Lin, et je crois qu'il y en aura encore plus cette année. Alors, de manière à parler aux gens, parler des mythes liés au don d'organes, parler à l'importance, je disais tantôt qu'on peut sauver jusqu'à 8 vies à notre décès, et souvent, très souvent, ça aide la famille du donneur à passer à travers un épisode de deuil parce que le don d'organes amène du sens dans une situation où c'est très difficile de trouver du sens, c'est-à-dire un décès subi.
Vous parliez des hôpitaux, notamment ici à Saint-Jérôme et tout ça. Est-ce qu'il y a des équipes médicales qui font la transplantation ici dans les Laurentides ou les personnes, les donneurs potentiels sont transférés ailleurs au Québec?
Il n'y a pas de transplantation d'organes dans les Laurentides comme telles. C'est des activités très spécialisées. Ce n'est pas un très, très grand volume d'activités. Alors, actuellement, les gens des Laurentides doivent venir dans un des hôpitaux de Montréal, là où il y a les programmes de transplantation, quand c'est nécessaire d'avoir une transplantation.
Donc, ça se fait à l'extérieur. Parlez-nous, bon, les dons d'organes, on a en tête mon rein, foie, cœur, poumon. C'est quoi des dons de tissu?
Alors, on fait une distinction parce que les organes dits solides sont complexes et, entre autres, peuvent pas se conserver aussi longtemps dehors du corps que les tissus. Ça, c'est une des distinctions. Alors, le don de tissu, ça va être, par exemple, le don d'une cornée, le don de peau, le don de tendons, d'os, de valves cardiaques. Et la plupart de ces parties du corps là, qui peuvent être prélevées peuvent être conservées sur de longues périodes avec les modalités appropriées. Et à ce moment-là, évidemment, ça peut contribuer à donner la vue à quelqu'un. Donc, ce sont des dons qui sont aussi importants que les dons d'organes, mais qui ne vont pas en général avoir pour effet les dons de tissus de sauver des vies, comme on va le voir du côté des dons d'organes.
Donc, est-ce que ça pourrait être, par exemple, de la peau, par exemple, pour aider un grand brûlé? Est-ce que ça pourrait
Absolument.
Être
ça peut être ça. Ça peut être pour réparer des tendons pour un sportif. Je ferais peut-être une nuance à ce que j'ai dit. Il y a les dons de moelle osseuse aussi. Puis ça, les dons de tissu ou de moelle osseuse sont gérés par EMA Québec. On a souvent entendu parler de dons de moelle osseuse. Mais dans certains types de cancers, ça peut effectivement contribuer à sauver des vies. C'est une petite nuance que je trouve importante d'apporter.
Absolument. Bon, on parle du don d'organes. Est-ce que ça peut se réaliser aussi de notre vivant? On en a déjà vu des histoires, mais parlez-nous de ça, vraiment, le don d'organes qui se fait grâce au grand cœur de nos concitoyens.
Oui, effectivement, chaque année au Québec, il y a autour d'une 50 dons vivants qui se font, essentiellement des dons de reins. Mais ça peut être aussi une partie du foie, parce que le foie est un organe qui se régénère. Donc, à ce moment-là, quand il y a une personne qui s'engage dans un processus comme ça, la plupart du temps, c'est qu'elle connaît quelqu'un dans son entourage, soit un parent, soit un ami, des fois même un collègue de travail. Et pardon, cette personne veut poser ce geste-là. Donc, il y aura une évaluation approfondie qui va être faite avec cette personne-là avant de procéder au don, parce qu'évidemment, on ne veut pas créer plus de mal que de bien. Et alors, quand tous les tests auront été faits au plan physiologique et psychologique, après, on pourra planifier le prélèvement de l'organe du rein et la transplantation chez la personne qui le recevra. C'est sûr qu'il y a, énormément de reconnaissance de ce côté-là, comme on en a aussi du côté des gens qui reçoivent un organe d'une personne décédée. Il y a beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Moi, je connais plusieurs personnes qui vivent avec un cœur, un foie, des poumons. Certaines de ces personnes-là, depuis 20, 30, même entendu parler récemment d'une greffe de rein, une personne greffée d'un rein, qui vit avec le rein depuis 40, plus de 40 ans. Donc, il y a de très beaux succès et le plus beau des succès réside dans ces vies qu'on sauve.
Absolument. Et ça fait en sorte que il y a quelque chose qui se crée, même comme vous disiez, dans les familles. Par exemple, bon, sur nos zones, on a fait une entrevue avec Mme Véronique Tifot, dont la fille a sauvé plusieurs vies grâce au don d'organes. Et il y a un message que ces gens-là portent aussi, hein, pour la cause d'une certaine façon. Est-ce qu'ils deviennent d'une certaine façon des ambassadeurs aussi, autant les receveurs que les donneurs potentiels?
Oui, la famille peut devenir un donneur, excusez-moi, la famille peut devenir un messager, c'est certain, peut témoigner de l'expérience qu'elle a vécue. De notre côté, chez Transplant Québec, on va agir toujours avec beaucoup de délicatesse de ce côté-là, parce que tout le monde ne veut pas exprimer ces choses de la même manière, et c'est très bien comme ça. Mais il est certain qu'une famille qui témoigne du caractère positif du don d'organes dans la suite des événements d'un décès tragique, ça amène les gens à réfléchir sur l'utilité, l'impact du don d'organes. Du côté des receveurs, bien sûr, ça témoigne des changements que ça peut apporter, des vies que ça sauve. C'est important de réfléchir que ça peut être nous ou ça peut être quelqu'un aussi très proche de nous qui aura besoin d'une transplantation. Alors, on sera donc content ou reconnaissant qu'il y ait eu quelqu'un qui ait accepté de faire le don et que la famille ait contribué à la résolution de ce processus de don-là. Ce que je peux faire comme citoyen aujourd'hui, c'est inscrire ma volonté dans un des registres et encore plus, parler de mes volontés avec mes proches. Ça, je peux faire ça et venir joindre les presque 4 millions de Québécois qui sont inscrits dans les registres et ne pas se dire, il y a assez de monde. Non, c'est peut-être moi, à mon décès, qui fera une différence. Vous savez, le plus vieux donneur au Québec avait 88 ans et cette personne a donné son foie et ce foie-là vit maintenant dans une personne qui a donné naissance à 3 enfants. Et ça fait plus de 14 ans que ce foie-là est dans ce nouveau corps. Donc, c'est déterminant. Comme on voit, l'âge n'est pas un facteur en soi.
N'est pas un facteur d'exclusion. C'est assez fascinant. En tout cas, vous semblez être vraiment passionné par votre cause, votre métier. Il faut dire que vous êtes à la tête de Transplant Québec depuis 2008.
Oui, je suis dans ma 10e année. Effectivement, je crois que c'est un travail dans lequel on doit s'investir et on doit mettre du cœur. Et c'est de voir l'impact sur toutes ces familles et sur les receveurs, et évidemment leur famille aussi, qui est extrêmement motivant. Les résultats s'améliorent au Québec. On sait qu'on peut faire un peu mieux. Il faut investir. Puis on ne parle pas de montants très importants, mais il faut s'engager. Il faut s'engager. Et chaque citoyen peut faire une différence en parlant du sujet avec ses proches et en s'inscrivant.
Évidemment, on est dans une année électorale. Je ne veux pas trop vous amener vers le côté politique, mais quand même, est-ce qu'il y a des demandes que Transplant Québec a fait auprès du gouvernement pour justement ces avancées-là? Quelles sont les attentes de votre organisme?
Je vous dirais qu'on a un plan 2016-2021 qui a été présenté avec des demandes budgétaires. Il y a eu des améliorations au cours des dernières années, mais il y a encore des pas à faire. Et ce qu'on dit, puis on est très à l'aise de le mentionner, c'est que en investissant quelques millions, puis là on ne parle pas de plusieurs, on peut en sauver beaucoup, beaucoup plus. Chaque transplantation de rein permet des économies nettes d'au moins 50 000 $ par année par personne. Donc, en 2017, c'est près de 17 millions de dollars d'économies nettes récurrentes annuelles qui ont été générées seulement par les greffes de reins. Et là, je ne parle pas de la souffrance humaine et tout ça. Donc, investir un peu en don d'organes fait une très grande différence dans la vie des personnes, mais aussi dans les économies qui sont générées. Donc, ça me paraît être deux très bonnes raisons d'assurer une certaine priorité à ces services-là.
Merci beaucoup, M. Beaulieu, d'avoir pris le temps. En tout cas, le message sera passé sur nos ondes pour nos auditeurs, auditrices des Laurentides. Et qui sait, peut-être qu'il y aura du moins quelques signatures de plus à ces registres-là au cours des prochaines semaines.